chers amis, c'est une joie d'être avec vous et d'ouvrir la parole ensemble. Si je ne parle pas assez fort, veuillez le signaler. Hein. Ouais, merci. Je propose de lire 6 versets pour commencer. Et si ce n'est pas tout à fait clair immédiatement quel est le lien entre les 6 versets, vous êtes excusés. Mais s'il y a quelqu'un qui le sait, je serais intéressé de le savoir après. Alors, Exode, chapitre 27. Exode 27, verset 16. Et pour la porte du parvis, un rideau de 20 coudées, de bleu et de pourpre et d'écarlate et de fin coton. Dans Lévitique, premier chapitre, verset 9. Au milieu, le sacrificateur fera fumer le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et puis dans Ésaïe, chapitre 4, Ésaïe 4, verset 2. En ce jour-là, il y aura un germe de l'Éternel pour splendeur et pour gloire. Dans le chapitre 40, Ésaïe 40, dans le verset 10, voici votre Dieu. Ça devrait être le cinquième maintenant, dans Ézéchiel. Ézéchiel, premier chapitre, le verset 10. Et la ressemblance de leur face était la face d'un homme. Et les quatre, ils avaient la face d'un lion à droite, et les quatre, ils avaient la face d'un bœuf à gauche, et les quatre, ils avaient la face d'un aigle. Et puis dans l'Évangile selon Jean, chapitre 18, premier verset. Ayant dit ces choses, Jésus s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron, où était un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Jusqu'ici. Demain, Dieu voulant, nous allons étudier dans l'Évangile selon Jean, dans le chapitre 20, le chapitre de la résurrection de notre Seigneur. Et j'ai reçu la tâche de dire quelque chose qui devait être préparatif sans être anticipatif, sans anticiper ce qui sera dit demain, peut-être. Alors, je propose d'utiliser ces moments pour, je dirais, accompagner le Seigneur Jésus sur son chemin qu'il a pris vers la croix et sur la croix, comme c'est décrit dans cet évangile selon Jean. C'est-à-dire de nous occuper un peu avec les chapitres 18 et 19 de l'évangile selon Jean. Mais de mettre l'accent sur quelques détails seulement qui montrent le caractère de cet évangile. C'est pour cela que j'ai lu les autres passages. Comme j'ai dit, si vous n'avez pas vu tout de suite le lien entre ces passages, ce n'est pas grave. Je vais essayer d'expliquer pourquoi je les ai lus. Je trouve que c'est impressionnant que Dieu nous a donné 4 évangiles, 4 rapports sur la vie et la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, et chacun avec un caractère bien spécifique et caractéristique. Comme la plupart d'entre vous le savent, Matthieu nous présente le roi, Marc nous présente le serviteur, Luc nous présente l'homme parfait et Jean nous présente le Fils de Dieu. Bien sûr, les 4 parlent de la même personne, mais c'est un autre aspect. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu a emprunté cette combinaison de ces 4 caractères dans l'Ancien Testament. À travers toute la Bible, on pourrait dire, on a lu quelques exemples. Et j'aimerais le montrer juste très rapidement pour après commencer avec Jean. Dans Exode 27, on a lu un verset qui parle du tabernacle et en particulier de la porte d'entrée. Quand on s'approchait du tabernacle, on se rendait compte que le tabernacle était entouré à chaque côté par une clôture 2,50 mètres d'hauteur, toute blanche, et le message était clair, on ne peut pas s'approcher de Dieu tout simplement. Mais à un côté, et seulement à un côté, il y avait une porte. Et cette porte est décrite ici. Alors, quelle est la signification de cette porte? La porte nous rappelle tout de suite Jean 10, où le Seigneur se présente en disant « Je suis la porte ». Mais cette porte a 4 couleurs, bleu, pourpre, écarlate et fin coton. Alors, si vous ne croyez pas que c'est important ou que cela ait une signification, j'aimerais juste vous rappeler qu'on rencontre ces 4 couleurs, 4 fois, à la porte d'entrée, à l'entrée du tabernacle même, puis dans la voile qui sépare le sanctuaire du très saint lieu, et maintenant, si on regarde en haut, la première des couvertures a encore une fois ces 4 couleurs. Alors peut-être il y a une signification. Je sais qu'il y a une autre explication aussi, mais je vous donne juste une ce soir. Pour ces couleurs, j'aimerais proposer que le pourpre parle du roi. Et ça, c'est l'évangile selon Matthieu. L'écarlate nous rappelle le sang du Seigneur Jésus et nous parle du parfait serviteur qui est venu pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Alors, ça, c'est l'évangile selon Marc. Puis, on a le fin coton qui nous rappelle l'évangile selon Luc, qui décrit l'homme pur, conçu par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, sans avoir une nature pécheresse, l'homme qui était absolument pur. Mais j'ai omis le premier, et ça c'est le bleu, qui parle du ciel. Et je propose que là nous avons l'évangile selon Jean, qui nous parle du Fils de Dieu qui est venu du ciel, qui est devenu homme. Maintenant, Regarde Lévitique 1. Alors, vous rendez compte, on n'a pas besoin d'aller très loin pour rencontrer les quatre évangiles encore une fois. Vous savez bien que dans Lévitique 1 à 5, nous trouvons quatre sacrifices pour lesquels, dans le contexte desquels, du sang était versé. Alors, quatre sacrifices qui parlent de la mort du Seigneur Jésus. Peut-être le plus facile, c'est si on commence un peu par derrière, le sacrifice de péché et le sacrifice du délit nous rappellent les évangiles selon Matthieu et Marc, qui sont les seuls pour nous donner cette exclamation du Seigneur Jésus, « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Peut-être Matthieu montre un peu plus la culpabilité du peuple, alors je dirais sacrifice du délit, et Marc quand même le caractère du péché. Et puis on a aussi le sacrifice de prospérité, où il y a la joie de la communion. Et c'est une pensée qu'on peut poursuivre à travers l'évangile selon Luc, mais surtout sur la croix. Le Seigneur, c'est très remarquable, seulement dans Luc, le Seigneur prie pour les ennemis. Il y a un brigand qui se convertit et le Seigneur lui dit « Aujourd'hui, tu serais avec moi au paradis. » Alors même sur la croix, il ouvre la porte pour la communion, même pour un brigand. Alors ça c'est Luc, sacrifice des prospérités. Mais le premier dont Dieu parle, c'est l'Holocauste. Et l'expression « Holocauste » veut dire « ce qui a sang ». C'est la pensée de l'Évangile selon Jean. Le sacrifice du Seigneur Jésus était bien donné pour nous sauver, pour nous acquérir la bénédiction, mais ce n'est pas l'aspect le plus élevé. L'aspect le plus élevé, c'est que le Seigneur s'est donné à Dieu. Peut-être pour être plus clair, imaginez-vous pour un instant que personne n'aurait jamais cru. Pendant tous les siècles de l'histoire de l'humanité, personne n'a cru. Si cela était vrai, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'œuvre du Seigneur à la croix serait en vain? Absolument pas. Même si personne n'avait cru, Dieu aurait été glorifié à 100%. Parce que finalement, il y avait un homme obéissant jusqu'à la mort qui a glorifié Dieu, c'est-à-dire qui a montré le caractère de Dieu, que Dieu est saint et il est amour, que Dieu est un Dieu qui donne et qui donne tout, qui donne même son Fils. Alors, heureusement, nous avons cru et beaucoup ont cru. Il y a beaucoup de fruits pour l'œuvre du Seigneur sur la croix. Mais je veux juste mettre l'accent sur cela, l'Holocauste, le côté, ce que le Seigneur, il s'est donné lui-même, il s'est offert lui-même à Dieu. Et c'est ce que j'espère nous allons retrouver dans l'Évangile selon Jean. Ah, je dois faire plus rapidement parce que c'est seulement l'introduction. Ésaïe, chapitre 4. Je dois m'excuser, mais à partir de maintenant, je ne vais plus parler des quatre ou montrer les quatre dans les Écritures, mais seulement celui qui a référence à Jean. Okay? Ésaïe 4, verset 2. « En ce jour-là, il y aura un germe de l'Éternel pour splendeur et pour gloire. Si vous regardez ce mot, le germe, ce qui est un nom, un titre pour le Messie, vous allez trouver cette expression, le germe, dans quatre contextes. Une fois, il dit, il y aura un germe et c'est un homme. C'est Luc, hein? Une fois, il dit, il y a un germe et c'est mon serviteur. Une fois, il dit, je crois, Jérémie 23, il y a un germe et il régnera en justice. Et c'est Matthieu. Et ici, il dit, il y aura un germe de l'Éternel pour splendeur et pour gloire. Et cela nous rappelle la divinité du Seigneur Jésus, c'est-à-dire l'Évangile selon Jean. Maintenant, on a lu dans Ésaïe 40. Le plus court des passages, Ésaïe 40, verset 10. « Voici votre Dieu. » Encore une fois, je vous propose de regarder cela à la maison. À Zacharie 3, Zacharie 6, vous allez trouver des expressions qui parlent du Messie et qui commencent avec le mot « voici ». Alors, « voici mon serviteur ». « Voici un homme ». Puis Zacharie 9, voici votre roi. Et ici, voici votre Dieu. Encore une fois, cette empreinte des quatre évangiles. Le dernier, c'est un peu plus difficile, Ézéchiel chapitre 1. Et verset 10, et la ressemblance de leur face était la face d'un homme, et puis il est fait mention de la face d'un lion, d'un bœuf et d'un aigle. Encore une fois, quatre. Mais peut-être vous dites, oui, mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'Évangile ? Je ne pense pas que Ézéchiel, il a eu une présentation ici du message de l'Évangile. Il a pu regarder dans le ciel. Si je me souviens bien, il était le seul dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ça a changé, hein. Mais lui, il a pu regarder dans le ciel et il a vu la gloire de Dieu. Et si on lit le chapitre, on commence à comprendre, peut-être il faut la lire plus qu'une fois, il est un peu difficile. On commence à comprendre qu'il s'agit des voies gouvernementales de Dieu. On pourrait dire le gouvernement de Dieu, comment il agit dans son gouvernement. Je dis seulement que ce n'est pas surprenant quand Dieu se révèle qu'on retrouve ces quatre caractères. Quand le Seigneur est venu sur cette terre, Dieu s'est révélé en grâce. Ici, il parle de la révélation de Dieu dans son gouvernement. Et comme c'est la révélation de Dieu, ce n'est pas étonnant qu'on retrouve les quatre caractères aussi dans ce passage. Alors, l'homme qui nous rappelle l'Évangile selon Luc, le lion qui nous rappelle Matthieu, le bœuf qui nous rappelle Marc et l'aigle qui nous rappelle Jean. Alors nous avons lu des versets écrits par des hommes qui n'ont pas vécu au même moment. Entre Moïse et le dernier, c'était Ézéchiel, je dirais, il y a presque 1000 ans. Alors comment ils pouvaient se mettre d'accord? Je dis cela un peu aussi pour les jeunes, hein? parce qu'il y a des gens qui doutent que la Bible est inspirée. Mais comment ces prophètes ont pu se mettre d'accord de présenter ces quatre caractères? Ce qui est encore plus étonnant, Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été écrits bien plus tard. Alors, le dernier des prophètes desquels on a lu, c'était Ézéchiel. Et après lui, c'était encore 5 siècles jusqu'à ce que le Seigneur est venu. Et bien plus tard, après, les évangélistes ont écrit. Mais nous voyons que c'est très important pour Dieu. Il veut nous donner ce portrait de son Fils et il souhaite que nous le regardons de ses quatre côtés. Et peut-être nous pouvons essayer de mettre l'accent ce soir un peu sur le côté de Jean. Alors, j'ai lu de Jean 18. Mais j'ai un deuxième point d'introduction. Après, je vais commencer, je promets. Hein. Oui. Alors, le premier point, c'est qu'on trouve le caractère des quatre évangiles dans toutes les Écritures. Mon deuxième point, j'aimerais montrer où nous nous trouvons ici dans l'évangile selon Jean. Ou, dit plus simplement, qu'est-ce qui se passe avant, chapitre 18. Mais pour, il faut un peu de patience avec moi ce soir, pour bien pouvoir expliquer cela, j'aimerais comparer avec Matthieu. Parce que je pense que si on a la comparaison entre Matthieu et Jean, cela nous aide à saisir le caractère de Jean. Alors, j'essaierai maintenant de faire un survol rapide de Matthieu et après un survol rapide de Jean pour comparer. Après, on peut commencer avec notre passage. Okay? Alors, Matthieu, dans un sens, il a le même sujet, le Seigneur Jésus, mais d'un autre côté. Il présente le roi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Premier chapitre, on a une généalogie, comme il faut pour un roi. Deuxième chapitre, on se rend compte que personne ne s'y intéresse à Jérusalem. Ce sont les sages de l'Est qui viennent. D'accord? Puis le Seigneur est baptisé, chapitre 3, et il endure les tentations, chapitre 4. Et après cela, on a la constitution de son royaume. Alors, jusque-là, le roi est venu. Personne ne s'est intéressé, mais il présente la constitution de son royaume dans, comment vous dites, le message, le sermon de la montagne. Après cela, le roi montre qu'il est vraiment le Messie en accomplissant des miracles dans les chapitres 8 jusqu'à 10 et 11. Et dans le chapitre 12, il devient clair qu'il rejette le roi. Il vient de chasser un démon et ils disent qu'il a chassé le démon par le plus haut des démons. Et à ce moment-là, le roi indique qu'il y a un changement de programme. Il quitte la maison, il va au lac et il parle du royaume des cieux. Et c'est-à-dire, parce que le roi a été rejeté, maintenant le royaume prendra une forme différente, cachée, et le roi sera absent dans le ciel. Il y a une deuxième conséquence, deuxième chose qui arrive après le roi a été rejeté, et c'est dans le chapitre 16, « Sur ce rocher, je bâtirai mon église. » Mais cela ne veut pas dire que c'est un substitut. Même si le Seigneur dit « je fais quelque chose de nouveau, je bâtirai mon Église », cela ne veut pas dire que le royaume est annulé. C'est pourquoi on a chapitre 17 sur la montagne de Transfiguration et on voit bien, non, le règne littéral, promis dans l'Ancien Testament, vient encore, même s'il y a l'Église introduite d'abord. Alors, on voit que le roi est rejeté, la résistance augmente et les derniers chapitres de l'Évangile selon Matthieu montrent combien le peuple est coupable. Ils disent même « son sang sera sur nous et sur nos enfants ». Il y a même l'avertissement par le rêve de la femme de Pilate, tous ces détails qui montrent la culpabilité du peuple. Et le Seigneur est présenté, on pourrait presque dire, comme la victime de la haine du peuple. Mais à la fin, il est le Messie sur la terre. Toute la puissance lui est donnée et il a ses disciples fidèles sur la terre. Ça, c'est l'histoire un peu, disons, très raccourcie selon Matthieu. Alors, comparons un peu maintenant avec Jean. Jean est complètement différent. On pourrait dire, en un mot, en fait, je ne vais pas le dire d'une façon meilleure que dans le verset 5 de notre cantique. Ta parole à ton Fils lui-même veut sans cesse attacher nos cœurs, dévoilant ses gloires suprêmes de la personne du Seigneur. Alors, je ne prétends pas avoir choisi le sujet à cause du cantique, mais le cantique exprime très bien ce que j'avais à cœur. Que l'Évangile selon Jean dévoile les gloires personnelles du Fils de Dieu. Et c'est ça le sujet. Alors, rapidement, après les chapitres d'introduction 1 et 2, qui présentent le Seigneur Jésus comme la parole éternelle, comme le Fils unique du Père et comme l'agneau de Dieu. On trouve une série de chapitres, on pourrait dire 3 à 7, qui montrent un chapitre après l'autre une gloire du Seigneur Jésus. Alors dans le chapitre 3, le Seigneur parle à Nicodème et puis il se présente comme Fils de l'homme et comme Fils unique de Dieu. Verset 14 dit que le Fils de l'homme doit être élevé pour que nous ayons la vie éternelle. Et le verset 16 dit que le Fils de Dieu est donné pour que nous ayons la vie éternelle. Alors, deux perspectives. Sur la croix déjà, le Fils de l'homme élevé, le Fils de Dieu donné. Et le grand sujet, la grande bénédiction, la vie éternelle. Dans le chapitre 4, le Seigneur parle à la femme de Samarie et il donne un don très grand. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et c'est quoi ce don de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui est la puissance de cette vie. Après cela, nous avons une série de 3 chapitres qui forment un ensemble et qui montrent la gloire du Seigneur Jésus, mais de 3 côtés. Et chaque fois, d'ailleurs, c'est très intéressant, chaque fois, il y a une petite histoire, un récit, et après une explication. Et les deux vont ensemble. Dans le chapitre 5, il y a l'histoire d'un paralytique à Bethesda, on dit, à Bethesda. Et le Seigneur le guérit. Et après, il y a une explication, mais il parle de quelque chose de bien plus grand que de guérir un paralytique. Il parle du Fils de Dieu qui donne la vie. Alors, il n'a pas seulement la force ou le pouvoir de donner la force où il y a la faiblesse, mais de donner la vie où il n'y a pas de vie. Dans le chapitre 6, il y a cette foule de 5000 hommes et le Seigneur multiplie les pains et tous sont rassasiés. Ce qu'on lit dans les quatre évangiles d'ailleurs, mais seulement dans Jean 6, nous avons l'explication que le Seigneur, en fait, il est la manne. Il est le pain du ciel, le vrai pain, ce qui satisfait, ce qui peut rassasier. Et dans le chapitre 7, à la fête des tabernacles, et l'idée, c'était une fête de joie, et le dernier jour de la fête, le Seigneur se lève et il crie en haute voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » C'était incroyable hein, de faire ça sur une fête de joie, à l'occasion d'une fête de joie. Mais le Seigneur, il enlève la belle façade, il montre ce qui est derrière, que ces rites juifs étaient vaines et vides parce qu'ils étaient en train de rejeter le Seigneur. Il montre quelque chose de bien meilleur. Il dit, chapitre 7, je vous donne la version Darby au lieu de donner ma propre version qui n'est pas très bonne. Jean 7, verset 20. En fait, 36 par là. Oui, 37. La dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'il a dit, ce qu'a dit l'Écriture, les fleuves de l'eau vive couleront de son ventre. » Il explique, l'évangéliste explique qu'il a dit cela en parlant du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit pouvait seulement venir après que le Seigneur Jésus avait été glorifié. Alors ici, nous avons le Fils de l'homme élevé et glorifié. Encore une fois, les trois ensemble. Chapitre 5, le Fils de Dieu qui donne la vie. Chapitre 6, le Fils de l'homme dans son humiliation sur la terre, le pain de vie. Et dans le chapitre 7, le Fils de l'homme glorifié dans le ciel et qui envoie le Saint-Esprit qui fait de nous une source de rafraîchissement, à des fleuves qui coulent, qui apportent de rafraîchissement. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Prétendez pour un moment que vous ne connaissez pas le reste de l'Évangile. Si une telle personne a été présentée avec de telles gloires, qui donne la vie éternelle, qui donne l'Esprit, qui est le Fils de Dieu, Fils de l'homme en humiliation, le Fils de l'homme glorifié, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut réagir? Il faut l'accepter, non? Il faut se mettre à genoux. Il faut adorer. Et ce qui se passe dans les chapitres 8 et 9, c'est le contraire absolu. Dans le chapitre 8, on rejette le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, à cause de ses paroles, qui étaient merveilleuses. Et dans le chapitre 9, on le rejette il avait guéri l'homme qui était né aveugle, on le rejette à cause de ses œuvres. Alors, vous dites peut-être, c'était une grande faillite, on peut dire. Il avait l'apparence. Hein. Et le Seigneur dit non. Il se présente comme bon berger. Il dit, qu'est-ce que le bon berger fait ? Il entre par la porte, dans la cour, dans la bergerie, merci. Et il mène les brebis dans cette bergerie, de la bergerie juive, et il les amène dans la liberté chrétienne. Et en fait, il dit, c'est ce que je viens de faire avec l'homme qui était né aveugle. Les Juifs l'avaient chassé de leur synagogue, mais le Seigneur dit non. Il ne faut pas penser qu'il a seulement été chassé. En fait, c'était moi qui ai fait ça. Moi, je suis le bon berger. Je l'ai amené, je l'ai mené en dehors de la bergerie juive pour qu'il suive le bon berger. Alors après cela, il y a seulement deux choses qui restent. Chapitre 11, la résurrection de Lazare, Dieu donne un témoignage final à la gloire de son fils parce que son fils ressuscite Lazare. Et dans le chapitre 12, on a, c'est très beau, on a une réaction. On a une réaction dans trois cercles, dans la maison, l'adoration de Marie, tout d'abord. Puis le Seigneur se présente à Jérusalem. Alors, il y a une réaction dans le cadre juif. Et après, il y a les Grecs qui viennent. Et on a une réaction parmi les nations. Alors, Dieu indique déjà la rejection dans les chapitres 8 et 9, ce n'était pas la fin. Il y aura une victoire et il y aura une adoration dans ces trois cercles. Alors tout ce qui reste, maintenant, c'est encore deux choses. C'est d'abord que le Seigneur prépare ses disciples pour son départ. Et deuxièmement, qu'il aille à la croix pour accomplir le conseil de Dieu. Alors dans les chapitres 13 à 17, il prépare ses disciples pour son absence. Il lave leurs pieds pour les préparer à la communion, chapitre 13. Il fortifie leur cœur en parlant de la maison du Père et de son retour pour eux. Dans le chapitre 15, il ouvre leur bouche pour un témoignage. Il se présente comme le vrai vigne. Cep, merci. C'est utile d'avoir un frère ici qui connaît le français. Le vrai cep. Et dans le chapitre 16, il instruit les disciples pour leur donner la connaissance qu'il leur faut dans le temps de son absence. Et puis il prie. Dans le chapitre 17, il les recommande, il les remet entièrement à Dieu en disant, moi je quitte. Mais eux, ils restent ici. Garde-les dans tous les dangers. Et maintenant, il y a seulement. Il y a l'œuvre du Seigneur à accomplir. Tout le reste est fait. Sa gloire a été vue, a été montrée. La réaction du peuple était claire. Il a préparé ses disciples. Et maintenant, il va vers la croix sans être arrêté. Il n'est pas présenté comme victime, mais comme fils de Dieu qui connaît le conseil de son Père et qui a à cœur de, d'accomplir ce conseil, ce plan de Dieu. Alors, quelques détails dans ces deux chapitres. Nous avons lu dans le premier verset, chapitre 18, premier verset, « Ayant dit ces choses ». Alors, « ayant dit ces choses » fait référence justement au chapitre 13 à 17 dont on vient de parler. Ce merveilleux discours d'au revoir pour les disciples. Que disent les autres évangélistes avant que le Seigneur va à la croix, vers la croix? Ils racontent qu'il y a trois groupes d'ennemis qui viennent. Les pharisiens, les sadducéens, un scribe. Chaque groupe avec une attaque, un piège spécifique. Vous voyez la différence, hein? Ici, il n'y a aucune mention de cela, mais il y a une mention de ce qu'il a dit, ce merveilleux discours d'adieu. Maintenant, il traverse le torrent du Cédron. Il se rend dans le jardin. Oui, premier verset. Où était un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples? Et la prochaine chose qu'on lit, c'est « Et Judas aussi, qui le livrait, connaissait le lieu, car Jésus s'y était souvent assemblé avec ses disciples. » Dans les autres évangiles, nous trouvons une description détaillée de ce qui s'est passé dans le jardin, de l'agonie du Seigneur, de ses trois prières. Luc en particulier, qui met l'accent sur son humanité, il décrit cette agonie, mais pas en Jean. En Jean, il est dans le jardin et après, il va vers la croix. Je vais revenir sur cela dans un instant. Il dit dans le verset 4, « Jésus donc, sachant les choses qui devaient lui arriver, il s'avança et leur dit. » Peut-être des fois, vous connaissez des amis qui souffrent. Des amis qui ont reçu un message terrible sur leur santé ou quelque chose. Mais le jour avant, la semaine avant, les années avant, ils étaient complètement à l'aise. Ils ne savaient rien. Il n'y avait pas d'ombre sur leur vie de ce qui allait arriver. C'était différent avec le Seigneur Jésus, il savait tout. Et on n'est pas surpris que c'est Jean qui met l'accent là-dessus, parce que le Seigneur est divin, il est omniscient. Jésus donc, sachant toutes choses. Mais disons, je pense que cela fait partie de ses souffrances aussi. Ses souffrances de préconnaissance. De savoir à l'avance ce qui lui allait ou ce qui devait arriver. Maintenant, le Seigneur dit à cette foule, à ces hommes qui s'approchent, « Qui cherchez-vous ? » Et ils lui répondirent, « Jésus le Nazaréen. » Et Jésus leur dit, « C'est moi. » Cette expression « c'est moi », on la trouve plusieurs fois dans Jean. Normalement, c'est traduit par « je suis ». Je suis le vrai pain, je suis le vrai cep, je suis la lumière du monde, etc. Et cette expression nous rappelle les mots en Exode où Dieu se présente à Moïse en disant « je fais une nouvelle révélation, je ne suis pas seulement le Tout-Puissant, comme je l'ai dit à Abraham, mais je suis aussi le « je suis ». Je suis l'Éternel. Et maintenant, le Seigneur utilise cette expression. Il dit, si vous me cherchez, c'est moi, je suis. Et on voit la conséquence. Quand il leur dit, verset 6, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Et je pense que cela confirme que les mots mettent l'accent sur le fait que cet homme dans le jardin, il n'était aucun autre que le Dieu éternel, le « Je suis ». Et quand il dit « Je suis », les ennemis doivent reculer. Et cela montre un autre aspect, d'ailleurs seulement en Jean, et c'est le fait que tout le monde doit reculer, ses ennemis doivent reculer. Cela montre que c'était complètement, volontairement, que le Seigneur est allé à la croix. Vous voyez, c'est l'Holocauste. Hein? C'est celui qui va pour s'offrir lui-même à Dieu. Et c'est très beau dans le verset 8, quand il dit « Je vous ai dit que c'est moi ». Encore une fois, cette expression. « Si donc vous me cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il est vraiment le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Il se met entre les ennemis et ses disciples. « Si vous cherchez moi, laissez aller ceux-ci. » Si. Alors, il y a Simon-Pierre, verset 10. Ayant une épée, il la tira et frappa l'esclave du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Et le nom de l'esclave était Malchus. Bon. C'est sûr que ce n'était pas sage, ce que Pierre a fait. Je ne sais pas exactement comment il a réussi à couper l'oreille de ce serviteur avec une épée sans le blesser sérieusement. Il était pêcheur, pas soldat. Mais tant mieux. Mais ce qu'on voit ici, il y a trois courts passages dans ce chapitre qui présentent Pierre. Et chaque fois, il y a quelque chose qui tourne mal. Et on se demande, à première lecture, pourquoi ce beau récit est interrompu avec le récit d'un disciple qui fait des fautes. Mais je pense que les fautes du disciple font briller et éclater encore plus la gloire de celui qui s'approche de la croix. Premier contraste, Pierre coupe l'oreille du serviteur et Jésus dit « Remets l'épée, la coupe que ma père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» Il y a Pierre qui pense qu'il peut encore changer la direction des événements. Et il y a le Fils de Dieu qui connaît le conseil de Dieu et qui accepte le plan de Dieu, même s'il connaît combien cela lui va coûter. Ici, nous avons cette expression, la coupe que la Père m'a donnée, ne la boirai-je pas. Quel contraste avec les évangiles synoptiques, où il y a cette agonie. D'ailleurs, l'agonie décrite par les autres évangélistes montre aussi la perfection du Seigneur. S'il n'était pas entré dans cette lutte de prière, dans cette agonie, s'il avait accepté facilement d'être abandonné par son Dieu, cela n'aurait pas été l'homme parfait. L'homme parfait devrait avoir cette crainte de ce jugement d'être abandonné par Dieu. Alors, en Gethsémané, on voit bien la perfection du vrai homme Jésus-Christ. Mais ici, nous voyons un autre côté. Et là, c'est le côté, il y a Dieu, Dieu a un plan, un conseil, il y a le Fils de Dieu qui connaît ce conseil et c'est hors de question de penser ou de faire autre chose. Il y va, il prend la coupe et c'est évident. Verset 12 dit que les soldats se saisirent de Jésus et le lièrent et l'amenèrent. Alors, ces trois expressions me frappent. Saisir, se saisir de Jésus, le prendre. Qui peut prendre le Fils de Dieu? Qui peut lier le Fils de Dieu? Et qui peut amener le Fils de Dieu? La seule raison pour laquelle ils ont pu faire cela, c'est parce que le Seigneur est allé ce chemin. Il a pris ce chemin volontairement. Alors, après cela, on lit de Pierre encore une fois, et je mets juste l'accent sur l'expression dans le verset 17. Lui dit, bon, la question aussi, « Et toi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Lui dit, « Je n'en suis point. » Quel contraste avec le Seigneur. Même dans l'expression, le Seigneur avait dit, « Me voici ou je suis. » Et Pierre dit, « Je ne suis pas. » Il nie à plusieurs de reprises. Et ce contraste nous fait admirer tant de plus le Seigneur Jésus, qui a dit, « C'est moi, laissez les autres aller. » Dans le verset 19, le souverain sacrificateur interrogea Jésus, touchant ses disciples et touchant sa doctrine. Et Jésus lui répondit, « Moi, j'ai ouvertement parlé au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ?» Juste pour nous faire réaliser un peu la situation, le Seigneur avait parlé à ses disciples et institué la scène du Seigneur le soir, jeudi soir. Il a été crucifié le vendredi matin. Entre ces deux événements, alors c'était déjà le soir, hein, et qu'on l'a saisi, c'était plus tard le soir. Mais entre cela et la crucifixion, il y avait 5 ou 6 sessions de cours, de tribunal. D'abord chez Annas, puis chez Caïaphas, l'autre souverain sacrificateur, puis devant le Sanhédrin, le conseil des Juifs, très tôt le matin, puis devant Pilate, qu'il a envoyé à Hérode, qu'il a renvoyé à Pilate. Je crois que c'est unique dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un serait convoqué devant 6 tribunaux, et tout cela dans une nuit. Et qu'entre le moment où on l'a appréhendé et le moment de son exécution, il y a pas bien plus que 12 heures. Mais c'est juste pour nous faire réaliser un peu la situation dans laquelle le Seigneur était. Mais il rend un témoignage merveilleux. Il dit dans le verset 20, « J'ai ouvertement parlé au monde. » Pourquoi il dit « au monde » ? Il avait parlé aux Juifs, non ? Il dit « dans la synagogue » et dans le temple. Et néanmoins, il dit, j'ai parlé au monde. Bon, ça c'est aussi typiquement Jean. Le Seigneur est le sauveur du monde, comme on lit dans chapitre 4. Il est la lumière du monde, comme on lit dans le chapitre 8. Le Seigneur est le Fils de Dieu qui est venu pour une mission globale et qui va l'accomplir. Ce n'est pas que tout le monde sera sauvé, mais il accomplit une œuvre qui est la base pour que tout le monde puisse être sauvé. Alors, j'avance au verset 31. Pilate leur dit, alors c'est maintenant déjà le quatrième tribunal. Hein. Pilate donc leur dit, prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. Et les Juifs donc lui dirent, il ne nous est pas permis de faire mourir personne, afin que fût accomplie la parole que Jésus avait dite, indiquant de quelle mort il devait mourir. C'est un autre trait caractéristique pour Jean. Nous allons voir, j'espère, dans les 10 minutes que j'ai encore, qu'à plusieurs reprises, l'accent est mis sur ce fait qu'il y a des prophéties qui s'accomplissent. Et le premier cas, ce sont les paroles du Seigneur lui-même. Il avait dit dans le chapitre 3 que comme Moïse avait élevé le serpent dans le désert, le Fils de Dieu sera élevé. Pourquoi élevé? Parce qu'il serait crucifié. Puis dans le chapitre 8, puis dans le chapitre 12, encore une fois, il dit « Je serai élevé ». Une fois que je suis élevé, j'attirerai tout le monde vers moi. Le centre d'attrait, c'est le Fils de Dieu sur la croix. Alors, il avait bien prédit la façon de laquelle il allait mourir. Et maintenant, nous comprenons ici ce problème des Juifs plein de haine contre le Seigneur Jésus. Ils voulaient le mettre à mort. Mais il était sous le joug des Romains qui leur avaient enlevé ce droit. Alors, s'ils voulaient condamner quelqu'un à mort, ils devaient aller chez les Romains pour demander la permission. Alors, ils sont en fureur. Mais Jean, il met l'accent sur le fait que tout cela sert pour accomplir la parole du Seigneur. Parce qu'ils n'avaient pas ce droit, les Juifs. Ils devaient aller aux Romains. Et les Romains étaient ceux qui utilisaient cette méthode de mettre à mort, la crucifixion. Mais tout cela, c'est le côté divin. C'était pour accomplir la parole du Seigneur. Très beau dans le verset 37. Le Seigneur rend ce témoignage, il dit « Moi, je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin que je rende témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » C'est merveilleux. Il n'y avait jamais quelque chose de semblable avant. Pilate, il est le grand juge, le représentant de l'Empire romain. Devant lui, quelqu'un qui est accusé, et l'accusé prononce des paroles qui font que c'est lui qui est le juge. Il dit, je suis né et je suis venu, d'ailleurs les deux côtés, hein. Il est né en tant qu'homme et il est venu parce qu'il existait avant, il est aussi Dieu. Mais pour ce but de rendre témoignage. Alors, il dit, c'est ma grande mission. Si je dois mourir pour cela, je vais mourir pour cela. Et il dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alors il ne dit pas, comme c'est le cas normalement, le juge doit décider si je dis la vérité. Il dit l'inverse. Hein? Il dit, celui qui m'écoute, il est de la vérité. Alors, quelle dignité, hein? Quelle grandeur de cet accusé devant le juge, qui devient le juge lui-même. Verset 40, non pas celui-ci, mais Barabbas. Pilate essaye de trouver une solution. Il sait que Jésus est innocent. Il veut le libérer, mais la pression est trop grande. Il était un bon politicien, si ça existe, un bon politicien. Il fait ses calculs. Il a une idée. Il dit, une fois par an, j'offre un brigand qui est libéré comme cadeau pour le peuple. Alors je vais leur offrir Jésus. Alors c'était très grave. Si le peuple avait fait ce que Pilate avait pensé, ils auraient pris le Seigneur, il aurait été libéré comme un brigand qui avait été donné en cadeau. Et cela ne doit pas arriver. C'était le calcul de Pilate. Cela aurait été très injuste parce qu'il était innocent. Mais le peuple fait le contraire de ce que Pilate attend. Et le peuple dit, pas celui-ci, mais Barabbas. Et Barabbas, c'était un meurtrier et un révolutionnaire. Et c'est celui qu'on a choisi. Son nom veut dire « fils du Père ». Quel choix, hein? Il y avait le vrai fils du Père devant eux. Il y avait le faux fils du Père. Et ils choisissent Barabbas. Et le monde a reçu ce qu'il a choisi, hein? Le meurtrier et la révolution, cela a caractérisé le monde depuis ce moment-là. Mais ce contraste nous rappelle la dignité du vrai fils du Père. Bon, je dois avouer que ton réveil m'a vaincu. Je peux juste donner quelques indications très très brefs maintenant. Sur le chapitre 19, verset 11, le Seigneur dit à Pilate qu'il avait menacé, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» Il dit, « Tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut. » Encore une fois, nous avons la perspective divine. Le Seigneur s'adresse aux représentants de ce grand empire avec toute cette force. Il dit, tu n'as pas de pouvoir du tout, de toi-même. Ton pouvoir vient de Dieu dans le ciel. Et cela met l'accent encore une fois sur le fait qu'il s'agit du plan de Dieu, du conseil de Dieu. Le Seigneur dit, si tu as le pouvoir aujourd'hui de décider, la seule raison pour cela, c'est le conseil de Dieu. Tu es un instrument dans les mains de Dieu. Verset 17, il sortit portant sa croix et s'en alla. D'abord, avant, nous avons lu, ils l'ont mené. Maintenant, il prend sa croix et il porte la croix et il va. C'est le Fils de Dieu. Comment est-ce qu'il dit dans Hébreux 9, verset 14, qui s'est livré lui-même par l'Esprit à Dieu, qui s'est sacrifié lui-même par l'Esprit à Dieu. Alors, il prend ce chemin maintenant pour accomplir, pour donner ce sacrifice à Dieu. Verset 24, il s'agit de la tunique, et ils disent « Ne la déchirons pas, mais jetons-la au sort à qui elle sera, afin que l'Écriture fût accomplie qui dit « Ils ont partagé entre eux mes vêtements. » Alors même dans ces détails, même dans les détails de ce que les soldats païens ont fait, l'accent est mis là-dessus, c'était le plan de Dieu. C'était déjà annoncé bien avant dans le psaume 22. Verset 30. Et quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est accompli. Et ayant baissé la tête, il remit son esprit. Cette parole que le Seigneur a prononcée sur la croix se trouve seulement dans cet évangile. D'ailleurs aussi la parole que je n'ai pas lue maintenant, quand il dit « j'ai soif ». Et les deux sont liés dans un sens. Pourquoi il a dit « j'ai soif » ? J'ai aucun doute qu'il avait un grand soif physiquement, littéralement. Mais il y avait une signification plus profonde. Je peux seulement admirer le Seigneur pour cela. Maintenant, il a été sur la croix pendant 6 heures. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui l'occupe? Il est occupé des prophéties qui parlent de sa mort. Il se rend compte, ou il sait que, il y avait encore une prophétie qui devait être accomplie, qui n'était pas encore accomplie, dans le psaume 69, qui dit « Dans ma soif, ils m'ont donné du vinaigre ». Et pour que cette prophétie aussi soit accomplie, il dit « J'ai soif ». Et c'est pour cela que le verset 30 commence en disant « Quand donc il eut pris le vinaigre ». Maintenant, il peut aller, il peut entrer dans la mort. Il peut exclamer « c'est accompli ». Quand il dit « c'est accompli », qu'est-ce qui est accompli exactement? On pourrait dire chaque prophétie de l'Ancien Testament qui devrait s'accomplir, chaque type de l'Ancien Testament, si ce soit Joseph ou David ou autre chose, les sacrifices. Chaque détail a été accompli. On pourrait aussi donner une autre réponse. On pourrait dire tout était accompli qui était nécessaire pour notre salut. C'est aussi vrai, c'est grand. Mais peut-être le côté principal, c'est que tout était accompli pour glorifier Dieu, pour révéler Dieu, pour faire connaître le Père. C'est accompli, un cri de victoire. Et ayant baissé la tête, il remit son esprit. Si vous comparez dans les 4 évangiles, l'expression utilisée pour dire que le Seigneur est mort, c'est chaque fois une expression différente. Ici, c'est spécialement Jean. Il remit son esprit. Juste un contraste, hein, dans Luc, il dit « Père, je confie mon esprit dans tes mains. » En tant qu'homme, il pouvait faire cela. Mais seulement parce qu'il était Dieu, il avait le pouvoir de remettre son esprit. Comme il avait dit dans le chapitre 10, « J'ai le pouvoir de laisser ma vie. » En fait, c'est quelque chose qu'on voit ici un peu plus tard. Quand les soldats arrivent pour casser les jambes, pour rompre les jambes, il dit dans le verset 33, « Mais étant venu à Jésus, comme ils virent qu'il était déjà mort. » Pourquoi? Parce que c'était le Fils de Dieu. On aurait attendu que les brigands, qui étaient des pêcheurs, qu'ils étaient morts avant lui. Mais non, C'était lui en premier, parce qu'il avait laissé sa vie volontairement. Et le chapitre conclut en disant que maintenant, il y a deux disciples qui n'étaient pas bien prêts avant, mais maintenant, ils sont prêts. Joseph d'Arimathie et Nicodème. D'abord, ils étaient des disciples cachés. Mais maintenant, Dieu les utilise. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Je pense que avant, à cause de leur position élevée, ils voulaient garder le respect du monde. C'était très difficile pour eux de confesser ouvertement qu'ils étaient disciples de Jésus. Qu'est-ce qui a changé? Maintenant, ils ont vu la croix. Ils ont vu leur Seigneur sur la croix. Et ils se sont dit, si ça, c'est ce que le monde fait de mon Seigneur, moi, je n'ai plus besoin de rien de la part du monde. Le respect du monde, merci. Et cela les transforme complètement et avec courage. Ils se rendent vers Pilate, ils demandent permission pour prendre le corps du Seigneur. Ils prennent le corps, ils lui donnent un sépulcre dans un jardin qui était à Joseph d'Arimathie. Et c'est mon dernier point, je promets. J'ai déjà fermé la Bible. C'est seulement dans Jean que nous trouvons ce jardin. En fait, mentionné deux fois que le sépulcre était dans un jardin. Cela nous rappelle le début de l'histoire de l'humanité, quand Dieu avait placé l'homme dans un jardin de délices, et l'homme a failli. Oui. L'homme a failli dans le jardin. Le Seigneur avait été dans cette lutte de prière dans un jardin, et maintenant, le corps du Fils de Dieu est mis dans un tombeau dans ce jardin. Le corps de celui qui avait pleinement glorifié Dieu jusqu'à la mort.
46. 324, 3 et 5. Et de